Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Alors, pour en prendre soin de la prostate ce matin, on a fait appel à deux spécialistes du sujet. Ils sont co-auteurs du livre « Je gâte ma prostate », un guide pratique des aliments pour une prostate en bonne santé, paru chez Flammarion. Bonjour, docteur Karim Ferry.
Bonjour,
docteur Kaina Oussedik.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'un chirurgien urologue et l'autre biochimiste alimentaire. On va d'abord bien situer les choses. Rappelez-nous, docteur Ferry, où elle se trouve cette prostate ?
Alors, c'est une petite glande qui est nichée au fond du pelvis, juste en dessous de la vessie, qui pose certains problèmes quand on avance dans l'âge, notamment elle grossit, et c'est ce qui fait que les hommes se réveillent la nuit, ils ont envie de faire pipi tout le temps, et parfois ils sont même bloqués. C'est aussi la glande qui permet d'évacuer le liquide séminal, les spermatozoïdes qui se mélangent et qui provoquent le sperme lors de l'orgasme.
Bon, on est d'accord, les femmes n'en ont pas, là-dessus on est d'accord, et donc c'est une émission qui intéressera plutôt les hommes ou leurs épouses qui nous écoutent, parce
très
que,
important.
Voilà, la cuisine aussi, puisqu'on va parler d'alimentation, surtout, ça concerne tout le monde. Alors, on sait que la prostate, elle peut grossir au cours de la vie des hommes, mais si on a une trop grosse prostate, je crois que c'est même un phénomène naturel, le fait qu'elle grossisse, qu'elle vieillisse, est-ce que c'est vraiment toujours grave d'avoir une prostate un peu grosse ?
Pas du tout, on peut très bien avoir une prostate un petit peu grosse, ou même petite, et entraîner beaucoup de symptômes urinaires. Comme on peut avoir une très très grosse prostate, moi j'ai des patients qui ont des prostates, on mesure ça en grammes en fait, une prostate normale c'est 30 grammes, et j'ai des patients qui ont des prostates de 200 grammes et qui ne sont pas gênés du tout.
Ah ouais.
Parce qu'en fait elles ne compriment pas le canal de l'urètre qui en permet l'évacuation de l'urine, et donc ils n'ont aucun symptôme sauf qu'ils ont une grosse prostate.
Si elle grossit de façon harmonieuse, on va dire entre guillemets, sans gêner le canal urinaire, tout se passe bien en général.
Et alors, si je comprends bien, une prostate un peu grosse, c'est pas forcément du tout un cancer.
Pas du tout. Alors, c'est deux pathologies totalement différentes. Dans le livre, on a essayé de l'expliquer dans les premiers chapitres, ce qu'est la prostate et les différentes pathologies qui peuvent accompagner cette petite glande. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie de la prostate, c'est quand elle grossit et qui peut entraîner parfois des gènes urinaires. Et l'autre maladie, c'est le cancer de la prostate, qui souvent ne donne pas de symptômes, et on le découvre par des mesures prises de sang. Et quand ça commence à gêner l'homme avec un cancer de prostate, c'est que le cancer devient évolué. Mais c'est deux choses, deux pathologies différentes, mais qui concernent la même glande.
Bon, docteur, on dit que les problèmes de prostate concernent souvent les messieurs qui prennent un peu d'âge, c'est vrai ou pas seulement ? Est-ce que finalement on peut être un jeune gaillard qui devrait finalement peut-être plus s'en soucier de sa prostate ? On commence à s'en préoccuper de cette glande à partir de quel âge d'ailleurs ?
Alors c'est à partir de 45, 50 ans, 55 ans que la prostate commence à faire parler d'elle, à faire des siennes. Mais il y a une autre pathologie de la prostate qui arrive plutôt chez les jeunes hommes. C'est en relation un peu avec l'amour, comme on vient de voir tout à l'heure.
Bah oui, il y a des transitions entre nos sujets, c'est ça qui est bien, franchement.
C'est ce qu'on appelle la prostatite, l'infection de la prostate. Et ça peut concerner de jeunes hommes qui ont une relation, qui peuvent attraper un germe et faire une infection, ce qu'on appelle une prostatite par la suite. Et c'est vrai que ça évolue avec l'âge.
Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi les hommes ne consultent pas de manière un peu plus systématique un urologue, alors que nous, les femmes, on va voir nos gynécos idéalement une fois par an, parce que apparemment, il n'y a pas toujours des symptômes, donc il faudrait un suivi extrêmement rapproché, non ?
Alors, en fait, la prostate, ça fait partie de l'intime, c'est la sphère intime, c'est comme on produit du sperme, l'éjaculation, l'orgasme, parfois il y a des problèmes érectiles qu'on essaye de mettre en relation avec la prostate, donc on n'en parle pas beaucoup, mais dans ma pratique, ça fait 20 ans que je fais de l'urologie, on en parle de façon plus librement, les généralistes ils sont hyper sensibilisés, donc il y a beaucoup moins de gens qui attendent pour consulter. Donc on en voit de plus en plus. Mais c'est vrai que ça fait partie de la sphère intime. On n'aime pas parler quand on a des problèmes urinaires ou autres.
Mais nous, on n'aime pas forcément aller chez le gynéco. Et pourtant, il faut le faire.
C'est ça.
Alors,
on se prend plus en main que vous, les hommes, apparemment.
Comme toujours, les hommes, ils sont toujours un peu assistés. Mais les gynécologues, en fait, les jeunes filles, dès qu'elles commencent à avoir des règles, on commence à leur dire qu'il faut aller voir le gynécologue. Les mamans sont sensibilisées. Et vers 15-16 ans, ou même beaucoup plus précocement, elles ont déjà un contact avec un médecin qui est en relation avec la sphère génitale. Les urologues, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens commencent à en parler à 45-50 ans. Donc, il faut...
Est-ce que quand il y a... Bon, là, j'imagine qu'ils consultent peut-être plus facilement ces messieurs, mais quand il y a un problème d'érection, par exemple, chez les hommes, est-ce que là, justement, ça pourrait éventuellement venir d'un problème de prostate ? Parce que vous avez parlé de problèmes urinaires, qui, en général, sont les premiers symptômes qui nous font dire « Tiens, il faut peut-être que j'aille voir un urologue », enfin, qui nous font dire « Ah, ces messieurs, en tout cas ». Mais est-ce que, justement, un problème d'érection, ça peut être signe qu'il faut aller regarder de ce côté-là ?
Alors, Moi, dans ma pratique personnelle, quand j'ai quelqu'un qui vient pour un problème d'érection, je fais un interrogatoire sur les problèmes urinaires. Et on a montré que parfois, quand on améliorait les symptômes urinaires liés à des problèmes prostatiques, on améliorait aussi parfois des problématiques de dysfonction érectile.
D'accord. On parle de la prostate parfois aussi comme une zone érogène. Du coup, est-ce que le fameux point P existe ?
Alors, j'en parle d'un petit chapitre dans le livre. En fait, le point P correspond au massage de la prostate. En fait, quand vous faites un toucher rectal, quand vous introduisez votre doigt dans le rectum et vous sentez la prostate, le fait de la masser provoque l'éjaculation et donc un orgasme. Donc, ça peut faire, c'est une zone extrêmement innervée, ça peut être une zone érogène et ça peut être une façon d'obtenir du plaisir.
Très bien. Mais écoutez, vous restez avec nous tous les deux, Kaina. On va passer à l'alimentation, donc ce sera à vous aussi dans un instant. On n'en a pas terminé avec cet entretien et puis surtout, donc, on va passer au vif du sujet, comment en prendre soin de la prostate, et ça commence dans l'assiette. On va vous guider ce matin vers les aliments qu'il faut privilégier et ceux qu'il faut éviter pour garder une bonne prostate en bonne santé. On est dans la prévention et on vous donne nos meilleurs conseils pour les hommes en particulier ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et surtout de celle de ces messieurs aujourd'hui, puisqu'on parle de la prostate et de comment éviter les problèmes médicaux la concernant en adoptant la bonne alimentation et puis de celle de vos proches, hein, puisque vous avez le droit d'avoir une prostate à côté de vous dont vous avez envie de prendre soin également. Oui, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Bon, on en parle avec le docteur Karim Ferry, chirurgien urologue, et le docteur Kaina Oussedik, biologiste alimentaire. Vous êtes les co-auteurs du livre Je gâte ma prostate, paru chez Flammarion. Alors déjà, la base dans l'assiette, Kaina, je me tourne vers vous, ça doit être le fameux régime méditerranéen. Alors c'est vrai que c'est vraiment le régime parfait pour chouchouter sa prostate, mais c'est large. Alors rappelez-nous finalement quels sont vraiment les aliments qui sont vraiment essentiels dans ce régime et qu'il faut mettre dans son assiette pour soigner sa
prostate.
Alors
rappelez-vous ce régime, c'est le régime qu'on voit au jour d'aujourd'hui, qui revient au jour d'aujourd'hui parce que c'est un régime qui est basé sur les aliments sains, pas transformés. On parle souvent d'huile d'olive, on parle souvent des légumes, des fibres. Alors on va utiliser les tomates, on va utiliser les oignons, on va utiliser les olives.
Il n'est pas bon pour la prostate, hein, celui-là il est bon pour le cœur, il est bon pour le cerveau.
C'est rempli d'antioxydants, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux et surtout beaucoup de fibres. Donc c'est un régime qui revient de plus en plus. Et puis c'est un régime quand même qui nous incite un petit peu à une petite cuisine. On revient quand même à prendre le temps de cuisiner, prendre le temps
d'éplucher des légumes.
Exactement, exactement. Et comme vous le dites très très bien, c'est très important pour la prostate, mais également important
pour tout le reste,
tous nos organes.
Et le jeûne, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un effet sur la prostate ?
Alors le jeûne, alors on parle souvent de jeûne thérapeutique, ou bien il y a des gens qui vont en groupe, marcher dans un bois, marcher...
Il y a des stages de jeûne, voilà, de randonnée, quoi, par exemple.
Etc. On s'exclut un peu du monde un peu citadin, pollué, etc. Le jeûne, à mon sens, à partir du moment où on fait des mini-jeûnes, où on ne va pas complètement bouleverser, parce qu'on dit souvent, c'est bien, on va faire des vacances à son tube digestif, des vacances à ses organes. La question, c'est est-ce que ces organes ont vraiment besoin de pas travailler du tout ?
Bien sûr.
Donc, c'est toujours
Mais le jeûne intermittent, ça, c'est à la mode.
Exactement.
Aussi, c'est de pas, par exemple, de manger le soir et puis de pas déjeuner, pas manger jusqu'au déjeuner.
À mon sens, ça, c'est un jeûne qui est très bon pour l'équilibre. D'une part, ça nous incite à moins manger, parce qu'on est énormément, enfin on est excessif dans tout ce que nous mangeons, on mange beaucoup, donc c'est important de réduire ces quantités par un jeûne intermittent, mais c'est très très important également pour sa prostate, parce qu'on s'aperçoit que comme pour la prostate, comme pour tous les autres organes, réduire toutes les toxines, réduire le gras, le sucre et les aliments transformés, ça fait du bien à tout son corps.
On revient plus, oui j'allais dire docteur Ferry, allez-y.
Pour le jeûne, sur la prostate ou les organes, on ne sait pas si ça peut améliorer quelque chose. Par contre, on a montré, ça c'est prouvé, que quand on fait de la radiothérapie ou une chimiothérapie, faire un jeûne, ça permet de stresser les cellules cancéureuses, de leur couper de leur carburant qui
est
le
sucre. En Allemagne, il y a des choses qui sont faites dans les hôpitaux.
Et donc ça potentialise énormément l'effet de la chimiothérapie.
Surtout à ne rien faire tout seul. Hein. Par contre, on fait ça sous contrôle médical. Attention, ne
pas faire un jeûne de 24 heures, c'est très bon.
Oui, c'est très très bon pour les traitements. Oui.
Quelles sont les vitamines et les minéraux, docteur Ferry, qui sont indispensables vraiment pour la prostate ? On peut les retrouver dans quel type d'aliments, par exemple ?
Alors, la vitamine qui est à la mode et puis que je préconise, c'est la vitamine D. actuellement. Mm-hmm. Parce qu'on a montré même dans cette période d'épidémie de Covid qu'elle permettait d'augmenter les défenses immunitaires. Et la vitamine D, on se rend compte qu'en fait, que la population française est extrêmement carencée.
Je crois que la moitié à peu près des Français sont carencés.
80% des gens sont carencés en vitamine D parce que les normes sont un peu trop élevées. Vous avez 20, la norme, c'est entre 30 et 60 et on se retrouve à 25 pour beaucoup de patients. Mm. Et donc, ils sont carencés. Et donc, il faut supplémenter la vitamine D. La vitamine D, on peut la retrouver dans certains aliments comme les poissons, les avocats et autres, l'exposition au soleil. Mais avec le confinement et autres, avec la pollution, on a beaucoup moins de soleil, on est beaucoup moins exposé.
Si on ne vit pas dans le sud, globalement, on a de fortes chances d'en avoir besoin.
Il y a une étude qui a montré, par exemple, qu'en Californie, c'est la région qui a le moins de cancer de prostate, et c'est les gens qui ont le taux le plus élevé aux États-Unis de vitamine D.
Ah,
donc,
c'est dingue.
C'est corrélé.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont aussi beaucoup de tomates? Parce que moi, j'ai entendu parler des pouvoirs magiques. Que la tomate, et notamment la tomate cuite, c'est vraiment un allié pour notre prostate.
Alors, c'est surtout les lycopènes qui sont contenus dans la tomate, qui est un puissant antioxydant, qui a montré qu'en mangeant de la sauce tomate sur vos pizzas, bon, pas manger de la pizza, mais manger de la sauce tomate, de la tomate cuite.
Le ketchup aussi ?
Le ketchup, le ketchup, ça peut être intéressant, mais souvent il est couplé à du sucre, donc là vous perdez un peu.
Ça peut se faire maison le ketchup, c'est pas trop compliqué.
Si vous faites du ketchup maison sans sucre, c'est parfait. Un coulis de tomate ou autre, ça permet de prévenir.
Il faudra en manger tous les jours, quoi, presque.
Exactement, il faut manger 2 à 3 portions par jour. Ça permet de prévenir le cancer de la prostate. Dans le livre, je dois juste préciser une chose. C'est pas parce que vous allez manger tous ces aliments que vous n'aurez jamais de cancer de prostate.
C'est
de la prévention. C'est le parent pauvre un peu de la médecine, mais le fait de bien manger de bons aliments, comme l'a précisé Kaina, de cuisiner, eh ben vous diminuez les graisses, les viandes cuites, tous les aliments qui sont nocifs pour votre santé en général.
Docteur Oussedic, justement, pourquoi il faut la cuire, la tomate? Pourquoi on pourrait pas la manger crue? Parce que c'est vrai qu'en été, par exemple, les salades de tomates, on adore, mais là, ça n'a pas le même effet sur la prostate. Pourquoi
exactement,
il faut la cuire?
Ça n'a pas le même effet parce qu'en réalité, quand on va cuire, de toute façon, de manière générale, mais beaucoup de plus particulièrement la tomate. En cuisant la tomate, vous allez la dégorger de plusieurs vitamines, de plusieurs minéraux. On va la concentrer en ce qu'on appelle son lycopène. Donc la cuisson de la tomate va faire qu'elle va être beaucoup plus concentrée, étant donné qu'on va dégorger d'eau et on va tout enlever. Mmh. Elle va se concentrer en cette molécule qui devient vraiment et qui est très intéressante et qu'on retrouve dans d'autres aliments. Mais la tomate, en étant une star
La tomate, on peut la consommer de 10 000 façons. On a même la recette de tomate farcie de notre chef Grégory Cuiron, que vous pouvez retrouver en podcast sur une ancienne émission, n'hésitez pas.
Bon, alors manger c'est bien, boire c'est sympa aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour prévenir le cancer de la prostate, l'un de vous deux? Moi j'ai entendu parler du jus de grenade.
Exactement, la grenade en elle-même qui contient des phénols, qui est un puissant encore antioxydant, qui permet de prévenir encore une fois le cancer de la prostate. Alors il est recommandé de manger de la grenade. Si vous pouvez, il faut la presser vous-même. Mm-hmm. Pas trop acheter les jus de grenade qu'on vend en grande surface, parce qu'ils sont souvent couplés avec du sucre. Et le sucre, c'est l'ennemi de tous les cancers, de la vie en général, pour le cœur et pour toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc prendre un jus de grenade par jour.
Fait maison,
exactement. Si possible.
Ou sinon, manger sa grenade.
Ça permet de diminuer le taux de PSA. Qui est l'hormone qui permet de prévenir, enfin de voir s'il y a un cancer ou pas. Et ça permet, dans certaines études épidémiologiques, de prévenir le cancer de prostate, de diminuer le risque de 20 à 30%.
Bon, on a compris, un régime méditerranéen, des légumes, des oléagineux, des
fruits,
tomates,
exactement.
Des fruits, tout ça c'est important, de la grenade bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors on va passer justement aux ennemis de la prostate. Selon vous, la viande rouge notamment, ou est-ce que c'est toutes les viandes d'ailleurs, c'est à limiter en tout cas?
Non.
Manger de bonne qualité.
Voilà. La viande rouge, en fait, il y a plusieurs théories, mais ça a été montré que manger de la viande rouge cuite au barbecue à très haute température, c'est extrêmement nocif.
Ça, c'est très mauvais.
Vous pouvez manger de la viande maigre, de la viande blanche, mais les viandes rouges, ça a évité parce que dans les viandes rouges, il y a ce qu'on appelle le fer héminique, c'est le fer qui est contenu dans les cellules sanguines, et en fait, c'est extrêmement nocif pour les cellules.
C'est surtout notre manière de cuire la viande rouge.
Alors comment on la cuit, la viande rouge, dans l'idéal? Alors, on n'en mange pas trop souvent, on a compris. Elle est à un repas sur deux ou un repas sur trois. Et comment on la cuit dans l'idéal?
Alors, il y en a autrefois qui la cuisaient en mijotant. Donc avec des légumes, etc. Donc on évitait le côté grillé.
Allez,
on évitait
un bon bœuf bourguignon, ça va.
Exactement, exactement.
Et au four.
Et au four, il y en a même qui la cuit en papillote en four. Et c'est vrai que toutes ces cuissons douces ou à la vapeur avec du cumin, du curcumin, de l'ail,
la bavette à la vapeur, ça me donne moins envie quand même. Mais à la poêle, grillé rapidement, ça
ou
va.
À la poêle, mais au contraire, à la poêle, pas assez rapidement. Doux. C'est cuit doux. Il faut pas qu'il y ait ce côté grillé, brûlé.
C'est ce qu'on aime.
Que
justement,
ça devient
dommage.
Toxique.
Oui, mais ça enflamme tout. Hein.
Exactement, ça enflamme
la graisse, le noir, tout ce qui est carbonisé sur la viande, c'est extrêmement nocif.
On ne sait pas l'émission, mais il paraît que même pour l'endométriose, c'est très mauvais.
On en parle de plus.
Les produits laitiers, c'est important d'en dire un mot, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit là-dessus, justement liées au cancer de la prostate ou à la prostate en général, à sa bonne santé. On les évite complètement. Est-ce qu'il y a des produits laitiers plus mauvais que d'autres?
Ça, c'est la marotte de Kaina.
Alors, Kaina, qu'est-ce qu'on dit sur les produits laitiers?
Alors, moi, les produits laitiers, déjà, je salue tous les agriculteurs qui veulent revenir à notre ancienne vache qui donnait 6 litres de lait par jour. C'est vrai que c'est très important parce que de nos jours, les productions actuelles sont plutôt vers 20 litres et plus. Mais c'est vrai que c'est ça la problématique. C'est la surproduction du lait de la vache au jour d'aujourd'hui qui pose problème pour la prostate, pour les inflammations prostatiques.
Donc c'est un lait un peu transformé, quoi.
C'est
déjà,
exactement,
c'est ça.
Ouais. Donc malheureusement, c'est vraiment pas... on n'a pas eu le choix, j'ai envie de dire. Certains hommes qui viennent au cabinet disent que à force de boire du lait de vache, ça les irritait, il y avait des inflammations, etc. Donc ils sont passés à ce qu'on appelle le lait de la brebis, de la chèvre, où la production est beaucoup moins intense, carrément pas intense.
Donc si on aime vraiment le lait qu'on a envie d'en consommer, plutôt aller vers des produits de brebis ou de chèvre, c'est ce que vous conseillez en tout cas.
Ou les petits producteurs qui font encore du lait de vache, avec une production raisonnable, quoi. Complètement.
Alors une dernière question très rapide. Les régimes végétariens ou véganes, est-ce que c'est bon pour la prostate, ça ?
Alors, le régime végétarien, en de règle générale, c'est le régime qui permet d'augmenter l'espérance de vie parmi tous les autres régimes, parce qu'on mange beaucoup de fruits et de légumes, on consomme moins de produits laitiers et on consomme moins de viande.
Ouais.
Pour la prostate, ça n'a pas encore été prouvé que ça améliorait, que ça pouvait éviter les cancers ou autres, mais on sait que c'est une bonne qualité de vie.
C'est surtout qu'on a montré que les végétariens, ils avaient quand même une philosophie de la vie globale, générale, qui était un
peu... Ils mangent plus bio, ils font plus attention à eux, à ce qu'ils consomment.
Moins excessif, moins de quantité, moins d'aliments, moins... Donc c'est, je pense que c'est aussi un tout...
Une globalité. Très bien. Merci à tous les deux pour cet éclairage sur ces aliments qu'il faut privilégier et ceux qui, au contraire, pourraient nuire à la bonne santé de la prostate des hommes. Merci à tous les deux pour vos conseils. On a tout bien noté. Bonne continuation.